Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, peut-être c'est un sujet de fin d'année, qui nous interroge en tant que Français, et aussi, nous verrons tout à l'heure aussi, le côté régional, le côté Occitanie, puisque nous sommes dans Radio Occitanie. Bien, le sujet, donc, pourrait être... Y a-t-il une architecture française ? Et aussi, en second lieu, y a-t-il ou y aurait-il des architectures régionales ou en tout cas la possibilité qu'il y ait une architecture régionale moderne ? Bon, vous voyez, c'est un sujet qui est assez vaste et nous allons essayer juste d'aborder le sujet dans ces demi-heures qui nous sont accordées. Bien d'abord... Il y a un numéro de la nouvelle revue que fait Michel Onfray, le philosophe, qui s'appelle « Le génie français ». Enfin, pas la revue, la revue s'appelle « Front populaire », et donc le titre du mensuel est, qui vient de sortir, c'est « Le génie français ». Et donc, il y a une interrogation sur ce qu'est le génie français, dont... Ce qui nous intéresse surtout, c'est dans l'art et, d'une manière plus précise, dans l'architecture. Alors, je vais vous raconter une anecdote récente que j'ai lue dans les journaux locaux. C'était le prix Nobel toulousain d'économie, Jean Tirole, à qui on demandait son avis sur... une prospective économique régionale et aussi de la ville de Toulouse. Donc, on pourrait supposer que, du fait de son prix Nobel, il a une expertise sur tous ces sujets économiques. En fait, je ne vais pas parler d'économie, mais je vais parler simplement de sa déclaration sur l'architecture. Je pense à l'avoir déjà parlé, mais c'était assez surprenant, parce qu'il disait que pour relancer l'économie locale, et en tout cas le prestige, la dynamique locale, il fallait faire des concours d'architecture internationaux pour avoir des bâtiments qui seraient des grands gestes architecturaux. Alors, il y a deux choses qui me chagrinent. La première, c'est le geste architectural. Je pense l'avoir déjà dit, mais je vais le répéter, parce que ces propos avaient été déjà tenus pendant la campagne des municipales. Le geste architectural qui était le bienvenu pour les nouveaux bâtiments de Toulouse. Alors, il y a bien quelque chose qui n'est pas un geste, c'est l'architecture. Je pense que de tous les arts, c'est celui qui est le plus lent à élaborer entre l'idée, le projet, le dessin du projet, le lancement et l'élaboration et la construction. On est sur des temps qui sont 2, 3, 4 ans. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le geste. Alors le geste, on peut l'employer en peinture, on peut l'employer en musique, on peut l'employer en danse, effectivement, où on peut dire qu'il y a un art du mouvement. Et le distinguo que faisait le philosophe Alain, c'était les arts statiques, dans lesquels l'architecture était évidemment le plus symbolique et le premier des arts, et les arts du mouvement, dans lequel on peut inclure également le cinéma. Donc, l'architecture n'est pas un geste, et le mot est prêt à confusion, puisque on supposerait qu'il suffirait qu'on ait une espèce de grand mouvement, là, comme on voyait certains peintres qui font ce qu'on appelle la peinture lyrique, l'expression lyrique en peinture, avoir les mêmes choses en architecture. Bien sûr, c'est une réflexion lente qui n'a absolument rien à voir, et je pense que c'est vraiment très malheureux d'employer ce terme. Alors la deuxième chose, c'est le concours international. Alors, le concours international, ça veut dire que, en fait, il n'y a pas dans notre pays, et encore moins dans notre région, les talents supposés pour construire sur notre territoire. Bon, quand on sait que l'architecture, c'est pas comme un tableau ou comme je parlais du cinéma tout à l'heure, c'est-à-dire des arts mobiles qui peuvent se déplacer et que on transforme le territoire avec l'architecture. Donc, c'est la réflexion que l'on peut poser. Est-ce que justement des gens venus d'ailleurs sont à même de comprendre le territoire et d'en faire, disons, bon usage. Alors, ne soyons pas non plus franchouillards et chauvins, les exemples ne manquent pas, où effectivement les échanges ont pu exister dans l'histoire, et il ne faut pas non plus créer un précaré pour des nationaux ou des régionaux. Ça n'aurait aucun sens. Mais de là à réclamer que ce soit des internationaux, enfin des gens venus d'autres pays qui viennent construire, je ne vois pas très bien quel est l'intérêt. À moins qu'on ait une sorte d'échange, mais c'est assez surprenant parce que l'architecture, comme je le disais à l'instant, ça travaille dans la lenteur, ça travaille avec un tissu économique à la fois industriel pour les produits, économique pour les entreprises locales, et forcément la vision extérieure n'est pas forcément celle qui peut favoriser l'économie. Donc, venant de la bouche d'un économiste, on ne voit pas très bien comment on pourrait relancer l'économie en ayant une importation à la fois de talent, je veux bien croire, mais aussi, ça sera en même temps des produits, des entreprises éventuellement, qui seront utilisés. Donc c'est assez curieux, parce que ce qu'on pourrait attendre d'un économiste local, en tout cas implanté localement, même s'il est de renommée internationale, c'est qu'il trouve les moyens pour que les entreprises locales exportent, comme ça l'est dans l'aviation et l'informatique et tous les domaines qui sont dans notre région et à Toulouse particulièrement, et qu'il y ait la même chose sur le plan artistique, et qu'il fasse la promotion justement de l'exportation des talents locaux. Bon, en fin de compte, ce qu'il demande, c'est le contraire. On ne voit pas très bien quel est l'intérêt économique, encore une fois, je le répète, de la manœuvre. Alors, bon, je ne suis pas innocent, vous en doutez bien que mon propos un peu ironique, il faut aller au fond du raisonnement, et c'est qu'en fait, on suppose qu'il n'y aurait pas d'identité régionale, que nous sommes dans un monde d'échanges culturels aujourd'hui, et que probablement nous manquerions de ces talents localement, et que donc cette importation serait bénéfique. Alors, il est vrai que notre président de la République actuel avait eu pendant sa campagne des propos assez malheureux sur la culture française, où il disait que la culture française, en gros, n'existait pas, puisque c'était une culture faite de mélange et de métissage. Bon, ce qui est, vous l'avouerez, une absurdité totale, parce que c'est le propre de toutes les cultures d'être issues de différentes sources, mais justement la culture en elle-même, qu'elle soit nationale ou régionale, puisqu'on en parlait tout à l'heure, eh bien justement, c'est la transformation des apports extérieurs qui crée une véritable identité. Donc, si on va plus loin, ça veut dire qu'il n'y aurait aucune culture, qu'on serait dans une espèce de bougli-bougla multiculturaliste, où on ne distinguerait pas les pays, les époques, et que tout égale à tout. Donc, Évidemment, il a essayé de se reprendre par la suite, mais en fait, je pense que c'est dans l'air du temps de penser cela. Alors, pour revenir à l'architecture, et comme je le disais tout à l'heure, c'est le moins mobile des arts, donc on voit pas très bien quel est l'intérêt de cette mobilité de mélange, attendu que on devrait plutôt chercher à la fois comprendre quelle est l'essence même de notre culture, en tout cas dans le territoire qui est le nôtre, même si c'est élargi aujourd'hui de l'Occitanie et non plus du Midi-Pyrénées ou du Languedoc, mais d'essayer de comprendre comment la modernité peut interpréter justement notre territoire en fonction juste de cette histoire, en fonction du climat et de données humaines également. Alors, nous avons un exemple extraordinaire justement qui est les Jacobins, qui est, et je pense que beaucoup de Toulousains ne le savent pas, un bâtiment qui est connu dans le monde entier par sa singularité et qui est justement le fruit d'un échange culturel, à la fois la culture technique de l'époque gothique qui fait que la nef est très lumineuse avec les piliers centraux qui effectivement en fait l'originalité, et que on a à la fois la technique gothique, mais reprenant la massivité et l'épaisseur dans une tradition qui est romaine, romane, et de la construction en briques, et que ce bâtiment a pu traverser des péripéties historiques incroyables, mais qu'il est debout sans la fragilité des bâtiments gothiques avec les arcs-boutants. Donc nous avons une synthèse à la fois de techniques venues d'ailleurs, et tout en gardant le caractère massif, et un caractère massif qui n'est pas uniquement que psychologique, puisqu'en fait, il franchit le temps sans problème, donc il a les qualités de cet héritage et de cette caractéristique de notre midi. Bon, alors je développerai après la pause musicale cette question du régionalisme.
Now go!
Alors nous allons reprendre sur la question du régionalisme. C'est pas une question simple du tout parce que son historique est assez confuse et nous allons essayer justement de rappeler des moments qui ne sont pas forcément très heureux sur cette demande de régionalisme. Alors on peut dire que avant la guerre première, c'est-à-dire au début du XXe siècle, il y a, avec la fin du XIXe siècle, une espèce de retour général sur des récits nationaux et des récits régionaux également. Alors, c'est l'époque où on refait renaître le folklore. Alors ça va à la fois des habits, des contes. Bon, tout ça est un peu ambigu parce que ça se situe dans une époque qui va être celle après de l'affaire Dreyfus. Et on va opposer le juif Dreyfus et surtout une culture qui va être internationale, évidemment, qui sera appliquée aux juifs, qu'on va reprendre avec l'architecture classique, qui sera appelée l'architecture quelque part internationale. Alors, terme après qui pourra être repris par le mouvement moderne, mais en tout cas, le vocabulaire classique s'oppose, et celui qui est notamment favorisé par l'école des Beaux-Arts s'oppose à une vision régionale. Alors on fait l'appel à la race française en refusant justement cet internationalisme. Tout ça, c'est quand même, comme je vous disais, lié à l'antisémitisme et un nationalisme exacerbé. Et il faut, je pense, se souvenir de cette histoire. Surtout que, par la suite, ça va revenir sous Pétain, pendant l'occupation allemande, et on va avoir aussi avec le discours sur la terre, qui ne ment pas, etc. Donc, un retour à ces traditions. Alors, vous me direz que tout le monde a vu des bâtiments régionaux et des styles régionaux et leur traduction qui a été faite dans des bâtiments. Alors, dans les villas, par exemple, les villas basques qui ont été construites entre les deux guerres et aussi après la Deuxième Guerre mondiale, avec des sortes de pannes de bois en béton, une forme, des couleurs. Et à peu près, on a à peu près les mêmes choses dans d'autres régions. Donc on vous parle par exemple du style alsacien et on imagine une France qui serait constituée de styles qui seraient un vocabulaire complet. Bon, tout ça n'est pas aussi vrai que l'on pense. Alors, le propos est ambigu parce que effectivement, il y a des caractéristiques différentes, comme je vous disais, qui sont liées à la fois à l'histoire par rapport aux Jacobins et qui sont aussi liées aux conditions locales, le climat et également les matériaux que l'on peut trouver. Donc ici, par exemple, on trouve de l'argile, ça permet de faire de la brique. Dans d'autres pays, il y a des forêts et il y a des traditions avec le bois. Mais par exemple, quand on parle de l'architecture alsacienne et quand on voit des villages comme Ericvir, etc., en fait, c'est pas de l'architecture alsacienne, c'est que l'architecture médiévale a été conservée et que à cette époque-là, il y avait toute la France et toutes les villes et Toulouse aussi n'étaient pas du tout bâties ni en pierre ni en brique, étaient bâties en pans de bois et en torchis. Le grand incendie ayant fait son œuvre, on a obligé de construire en brique et en pierre. Et donc, on a très peu aujourd'hui de maisons qui demeurent avec les façades en pans de bois. Mais on peut dire que la France entière est découverte. Donc, il ne s'agit pas de styles régionaux, mais il s'agit d'époques. Alors, il y a une deuxième chose. Quand je parlais, par exemple, tout à l'heure des maisons basques. En fait, ce n'était pas des maisons, mais c'était des bergeries. Et alors, on s'est servi de bâtiments fonctionnels et on les a détournés pour en faire des maisons pour bourgeois ou des maisons de vacances en utilisant ou en détournant des bâtiments fonctionnels avec des usages bien précis, notamment enfin, des bâtiments ruraux que l'on a transformés en maisons d'habitation. Alors, vous voyez que les choses ne sont pas aussi simples et qu'on a une sédimentation par période et que les différences entre les régions ne sont pas aussi simples que ça. Par exemple, l'architecture classique. On a Bordeaux construit avec l'architecture classique, on a Besançon également construit en architecture classique parce que la richesse de ces villes était liée à cette époque-là et qu'à Toulouse par exemple, la richesse de la ville a été à la Renaissance et qu'il a fallu attendre l'époque moderne pour retrouver, disons, ces fastes économiques. Donc, ça nous dit beaucoup, en fait, de l'histoire des villes, mais on ne peut pas vraiment penser qu'il y a des styles qui sont liés au territoire et dessinés avec des frontières. Les choses sont un peu plus complexes que cela. Ceci étant, la France est un pays de grande variété, et ne serait-ce que, par exemple, l'architecture religieuse, avec les clochers qui sont différents, que on peut voir dans les paysages en faisant quelques centaines de kilomètres, on a des changements complets. Alors là, c'est effectivement cette diversité. Mais encore une fois, c'est un mélange à la fois d'histoire et c'est une chose bien complexe. Donc la volonté d'établir un catalogue de styles régionaux qui seraient imposés, comme on a voulu le faire à un moment donné, sur les territoires, bien sûr, est une absurdité et en tout cas n'a vraiment pas de raison d'être. Alors, par contre, même si cela est complexe, on pourrait penser que les villes puissent garder leur caractère. Alors, même si ces caractères, comme je disais, sont dus aux vicissitudes de l'histoire, ce caractère existe. Par exemple, Toulouse est différente de Bordeaux et différente de Montpellier. Les histoires sont différentes. Donc, on pourrait penser qu'il y a des identités. Alors, c'est un mot qui fait peur à certains. Alors, l'identité française ou les identités régionales ou locales. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait penser qu'on établit à partir de territoires des continuités, ou en tout cas, on demande aux architectes et aux urbanistes, puisqu'il s'agit à la fois de villes ou de villages, d'avoir une cohérence et de penser les choses non pas dans un mimétisme passéiste, mais de faire une transposition moderne tout en gardant le caractère. Et ça, effectivement, c'est une difficulté, mais ça peut être aussi une volonté. Alors, il est évident que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est bien sûr à l'inverse de la demande du prix Nobel Jean Tirole, qui, lui, veut faire des concours internationaux. Donc, il est certain que, de ce fait, on va amener des Japonais, des Américains, des Anglais, des Espagnols, évidemment, qui ne vont pas forcément avoir comme souci premier de faire cette démarche assez complexe de connaissance de l'histoire locale et d'essayer justement de traduire ce passé dans l'architecture d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, c'est un problème pour lequel je n'ai pas de solution, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des architectures dans la ville, et je ne vais pas parler de moi, mais enfin, il y a de nombreux architectes qui se sont essayés et ont réussi à faire justement des expressions locales, et je pense que cela continue, et c'est quelque chose qui est intéressant et qui demanderait justement une réflexion et un débat assez soutenu sur une expression moderne de notre patrimoine et de notre culture. Alors, il est évident que l'architecture n'est pas que cela. L'architecture, elle a plusieurs rôles. On va reprendre la définition de l'architecte théoricien de la Renaissance, Alberti. Il avait trois définitions de nécessité architecturale qu'il établissait dans un ordre hiérarchique, et c'est tout à fait intéressant. Le premier était firmitas, ça voulait dire le bâtiment devait tenir. Alors là, ça fait partie des choses importantes, et on demandait à l'architecture d'être durable, non pas dans ce sens imbécile d'aujourd'hui, où ça serait une espèce de magie écologique, mais simplement, le durable, c'est durer. Donc, apparemment, ce n'est pas la demande d'aujourd'hui d'avoir des bâtiments qui ne vieillissent pas dans le temps, ne coûtent pas cher en rénovation et perdurent sans se modifier grandement. Donc ça, c'est la première qualité. Alors, il suppose que dans un premier temps, il faut que cela soit exaucé, que cela soit satisfait. Et alors, la deuxième demande à l'architecte, c'est le necessitas. Le necessitas, c'est le fonctionnel. Ça veut dire qu'un bâtiment doit être fait pour sa destination. Et ça, c'est le plus important. Des logements qui soient agréables, ça veut dire des logements où on est bien d'habiter. C'est la même chose pour un bâtiment public, pour des écoles, pour des hôpitaux. On leur demande d'être performants dans leur destination. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est plus apparemment demandé par beaucoup, puisque quand on lit dans les journaux, par exemple, l'inauguration d'un bâtiment public, prenons une école, on dit « Ah, une école très innovante, expérimentale ». Alors, effectivement, on se dit « Tiens, c'est intéressant, il y a des nouvelles manières d'enseigner et c'est un sujet extrêmement important ». Et puis, quand on lit l'article, il s'agit d'un chauffe-eau sur le toit, et c'était ça l'expérimentation. Donc, je trouve ça un peu désolant qu'aujourd'hui, on ait comme discours unique le discours sur l'épaisseur de l'isolation et sur les panneaux solaires et sous les chauffe-eau. Alors, et bien évidemment, ne vous méprenez pas sur mon propos, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ça doit rester dans son rôle, dans c'est le rôle premier, c'est-à-dire le firmitas, voilà, on doit avoir tous ces problèmes-là. Mais le problème de la fonction, c'est quand même le problème central, puisqu'en fait, c'est pour cela qu'on fait un bâtiment. Et ce n'est pas pour faire plaisir sur l'épaisseur d'isolation. Ce n'est pas ça le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est la destination d'un bâtiment. Alors, et puis, le dernier épisode, c'est celui du ce qu'il appelle voluptas, c'est-à-dire c'est l'esthétique, c'est la beauté du bâtiment. Et là où Alberti est intéressant, et c'est une leçon qui doit perdurer, c'est qu'il dit qu'on ne peut atteindre à ce niveau-là, donc de la beauté, de l'esthétique, du plaisir de regarder un bâtiment, et que quand on a déjà fait passer les deux niveaux précédents, c'est-à-dire que si votre bâtiment ne tient pas ou si l'eau rentre dedans, eh bien vous avez raté votre coup, et s'il n'est pas bien dans sa destination, il ne peut pas prétendre à la beauté. Donc, une fois qu'on a satisfait à ces deux étapes, eh bien effectivement, on aura le droit de prétendre à la beauté. Et là, c'est une leçon qui nous vient de la Renaissance, et je pense que on devrait l'entendre plus souvent dans les concours, dans les sélections d'architectes, dans les commentaires des journalistes sur les bâtiments, et aussi par tous ceux qui m'écoutaient, qui êtes des utilisateurs de l'architecture à tous les niveaux. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute.